Chers amis auditeurs, dans ce libre journal des artisans première partie, j'ai le plaisir d'accueillir en premier lieu un nouveau comparse pour l'animation de cette émission, Benoît Duchâtelet. Benoît, bonjour.
Bonjour Benoît, effectivement, on pourrait oser dire qu'un Benoît c'est bien et deux Benoît c'est mieux, mais pour l'instant je suis très honoré de rejoindre le libre journal des artisans.
C'est un plaisir partagé. Cette émission étant enregistrée, vous pouvez quand même vous envoyer vos messages et vos commentaires et que nous traiterons en direct dans la prochaine émission. Le vin. Il est partie essentielle de notre art de vivre et de notre civilisation. Produit de la terre, il est le symbole de l'enracinement que tout un chacun et chaque Français doit ressentir. Consommé forcément avec modération, pardonnez-moi, je suis obligé de le dire, il reflète la diversité de nos terroirs et constitue donc l'ossature d'une grande majorité de ceux-ci et des provinces de notre douce France. Mais revenons à notre sujet. Aujourd'hui, nous accueillons des artisans de la plume, de la matière, du vin. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Anthony Huyn, artiste du vin et de ses objets, de ses composants, et Vladimir Kaufmann Turkestanski, propriétaire de la maison de champagne Rivaux de la Raffinière et surtout éditeur de la revue Vinicole Internationale. Je suis Benoît Aguelon, artisan tailleur de costumes à Neuilly-sur-Seine. Je suis accompagné de Benoît Duchâtelet et vous êtes à l'écoute du libre journal des artisans, première partie. Vladimir, bonjour.
Bonjour Benoît, merci de m'avoir invité aujourd'hui sur Radio Courtoisie. C'est toujours un plaisir de discuter autour de thèmes que l'on aime, le vin, l'art. Il y a beaucoup de passerelles entre les deux.
Absolument. Vous avez quel est votre parcours aujourd'hui? Vous êtes un petit peu multicarte. D'abord la revue Vinicole Internationale. Vous êtes une sorte de principal média, on va dire, du monde vinicole. Donc vous avez développé une expertise particulière.
Oui, absolument. Merci de le souligner. Alors d'abord, je pense que je suis un artisan moi-même parce que je suis un petit entrepreneur depuis plus de 20 ans. Donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes, de développement, d'analyse, de rencontres, etc. Le quotidien est rythmé d'artisanat et de nouveautés. Donc moi, j'ai eu plusieurs vies. J'étais banquier à Singapour et en Suisse. Et les grandes affaires des autres, finalement, m'intéressaient plus tellement. Je préférais mes petites affaires pour revenir un peu à l'artisanat. Donc j'ai créé, il y a 20 ans, Amiral Conseil, qui était une petite société de négoce de vin et de conseil. Ça s'est développé. Aujourd'hui, on a plusieurs activités. On a une activité d'éditeur où j'ai repris la RVI, la Revue Vinicole Internationale, en 2010. C'est le plus vieux magazine de vin en France. Ça existe depuis 1880. C'est une référence pour les entreprises du vin et des spiritueux, mais c'est un magazine qui est pas très connu du grand public parce qu'on est B2B pour les professionnels. Il y a maintenant 10 ans, j'ai créé une petite maison de champagne qui s'appelle Rivaux de la Raffinière. C'est le nom de ma grand-mère. Le nom a disparu parce qu'il y avait que des femmes. Et avec l'autorisation de ma grand-mère, j'ai pu reprendre le nom et développer à Épernay une petite maison de champagne. Donc, je travaille avec une famille de vignerons très engagés. Et en 10 ans, on a développé le champagne dans une dizaine de pays. En ce moment, on a des cuvées blanc de blanc avec des chardonnays de Chouilly. On a une cuvée rosée. On évolue beaucoup dans le milieu du polo, la grande restauration, et l'export. Pendant le Covid, je m'ennuyais un peu comme beaucoup de gens qui nous écoutent. J'espère pas trop. C'était une période de réflexion. J'ai profité de cette période pour monter un club de vin qui s'appelle The Wine Club. Et on a réussi à réunir 300 amateurs collectionneurs de grands vins aujourd'hui dans une dizaine de pays. Donc on organise des dîners, des voyages dans les vignobles, des dégustations. On s'est un peu transformé en agence de relations publiques. La semaine dernière encore, j'étais avec le ministre du commerce de Hong Kong, Algernon Yeo. pour l'accompagner, pour rencontrer les artisans du vin. Donc dans les vignobles, on a été visiter des propriétés à Bordeaux et en Armagnac, à la pointe des propriétés à Bordeaux, à la pointe de la technologie.
D'accord.
Et de l'artisanat. Donc on a visité Château Obailly, qui est un chai high tech. On a visité Smith Olafite, qui a développé sa propre tonnellerie sur place.
Alors ça sera une question qu'on vous posera tout à l'heure.
Oui. D'accord. On a visité Château d'Yquem, qui est très singulier, qui est un exemple aussi de tradition et de modernité. Et ensuite, on a été accueillis en Armagnac par la maison d'Arrose avec les propriétaires aussi de Château d'Arton. Donc, le ministre voulait venir voir un peu ce qu'on faisait de mieux en France dans les vignobles et dans cet art de la culture du vin. Et donc, on a été approché par le gouvernement de Hong Kong pour les accompagner sur un peu cet artisanat viticole.
Je fais juste une parenthèse parce qu'effectivement l'avantage de la passion, c'est que c'est la valorisation de nos terroirs et on voit que ça peut emmener partout dans le monde, surtout quand il s'agit de nos vins et de nos crus. Je rappelle aussi que nos auditeurs ont l'oreille sensible, donc si on peut se battre contre les anglicismes, c'est toujours un petit plaisir d'essayer de s'y tenir. C'est une des spécificités de la maison, même quand c'est pas possible, on en fait un peu presque des pirouettes pour essayer de trouver des solutions. Ça, c'est pour le clin d'œil.
Voilà. Alors, pour respecter la loi Toubon, on peut effectivement remplacer high-tech par haute technologie, et on en trouvera d'autres.
Exactement. Tout à fait. Donc, en fait, vous, par la revue Vinicole internationale, par votre activité de relations publiques, vous avez une démarche d'identification de terroirs, de maisons particulières. Quel est votre positionnement concernant ceci ?
Alors, d'une manière générale, on aime bien la culture et les bonnes pratiques. Donc, moi, j'avais une culture plutôt classique du vin depuis mon adolescence. Et j'ai été amené, grâce à la reprise de cette revue et à m'occuper maintenant de la rédaction avec une équipe, on est amené à visiter des vignobles dans toutes les régions, voire dans différents pays. On va du Beaujolais à la Touraine, du Chablis à la Provence, de la Bourgogne au Bordelais, en passant par la Loire, la Champagne, etc. On a aussi visité des vignobles en Italie, au Brésil, un peu partout, mais j'avoue que mon cœur pour les vignobles est resté en France. On est une fois par semaine dans un vignoble. Je pars demain matin, je prends le premier train pour Saint-Émilion et je serai rentré demain soir pour dîner en famille.
D'accord.
Voilà une belle occasion de susciter des jalousies parce que c'est merveilleux de pouvoir être en permanence dans les terroirs et auprès des grands artisans du vin. Peut-être deux chiffres, quelques chiffres pour vulgariser un peu le sujet sur le nombre de cols par an, combien de production reste en France, combien à l'exportation et un gros point sur Bourgogne-Bordeaux pour les volumes, pour faire une mise à jour 2025 pour ceux qui nous écoutent.
Alors, je suis peut-être très à jour sur les volumes globaux. Je peux vous donner quelques chiffres. La France est dans un trio de tête du plus gros producteur de vin avec l'Italie et l'Espagne. Et une année, ça va être la France qui sera premier. L'année suivante, ça va être l'Espagne, l'Italie. Et ça tourne un peu. En Champagne, je suis plus affûté sur les chiffres en Champagne. Avec Rivaux, on est en permanence sollicité sur les volumes, sur l'étude de la Champagne, etc. Aujourd'hui, la Champagne, l'année dernière, on a vendu 200 millions de cols, pas moi, la Champagne en général, dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore 15 ans, on vendait 3 bouteilles sur 4 de Champagne en grande distribution. Aujourd'hui, on vend plutôt 3 bouteilles sur 4 à l'export. Avec une mauvaise météo l'année dernière, on est descendu à 280 millions de bouteilles, alors qu'en général, on est plutôt entre 300 et 330. Les années records, c'était 330. Les marchés qui marchent très bien sont l'Angleterre, le Japon, la Belgique, l'Allemagne. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les États-Unis parce qu'on ne sait pas comment vont évoluer d'une semaine à l'autre les taxes et donc les prix au bout de la chaîne des vins et des champagnes.
Donc c'est là où l'actualité politique actuelle a également un impact évidemment sur nos champagnes.
Tout est ultra connecté. Oui. Les grands vins dépendent de la géopolitique mondiale et des bourses mondiales, les ventes de grands vins. La distribution, les vins de tous les jours dépendent du pouvoir d'achat. Et les champagnes aussi, on est soumis à la géopolitique et au pouvoir d'achat dans le monde entier. Donc la géopolitique avec ce qui se passe avec les taxes aux États-Unis, les lois anti-corruption contre les cadeaux et anti-dumping en Chine. Voilà. Après, vous avez des nouveaux marchés qui s'ouvrent, des marchés très fidèles comme la Grande-Bretagne, la Belgique, des nouveaux marchés qui se redynamisent comme Hong Kong. Voilà, on est tous les lundis, il y a un nouveau terrain de jeu.
Concernant les États-Unis particulièrement, vous n'avez pas eu des faits d'annonce, donc de commandes qui ont été faites avant qu'il y ait quoi que ce soit au niveau douanier?
Alors si les commandes.
Un effet d'aubaine.
Alors les commandes ont été faites, elles sont en stand-by parce que aujourd'hui, malgré tout ce qu'a raconté le président Trump. Tous les jours sur les réseaux sociaux ou repris ce qu'on peut voir dans l'actualité, c'est pas effectif. Le président fait des effets d'annonce tous les lundis, il change d'avis, il change de stratégie, et en fait toutes ces annonces doivent être votées derrière par le Parlement, elles doivent être mises en place, oui, par les douanes, et aujourd'hui c'est absolument pas le cas. Donc il a menacé les importations et les produits français d'être taxés à 200%. On en est très très loin aujourd'hui, on est à 10% ad valorem. Mais ce qui fait peur au marché, et c'est pour ça que les commandes sont en stand-by, c'est que malgré le fait que la réalité des taxes n'a pas bougé depuis l'arrivée de Trump, on pense que ça peut évoluer et les importateurs aux États-Unis ne veulent pas acheter des vins à certains prix et prendre le risque d'être taxés à 30%, 50%, 100% dans un mois.
Donc c'est par anticipation, le blocage est par anticipation.
Exactement.
D'accord.
Et c'est très psychologique parce qu'on fait des affaires quand on sait où on va.
Et alors, un point un peu surprenant lorsqu'il y a quelques dîners mondains et qu'on se pose toujours la question: quel est le département de France où se consomme le plus de champagne? Quelle serait votre réponse sur ce point pour savoir si ça corrobore ce que j'avais en tête?
Alors, je pense que Paris et la Champagne doivent être au coude à coude.
Et souvent, on répond la Martinique.
Oui, alors je connais quelques importateurs en Martinique, ils travaillent beaucoup. Je pense que les Martiniquais sont des grands buveurs de rhum. Un peu de champagne, le champagne marche bien.
Les chiffres étaient assez étonnants pour le département de France qui consommait le plus de champagne. Souvent, la Martinique arrivait vraiment avant d'autres départements, donc c'était à creuser, parce que je voulais savoir si c'était alors, les gens d'urbaine des dîners mondains.
Alors, ils sont peut-être dans le top 5, mais réellement, la Champagne consomme beaucoup de champagne avec la restauration et les maisons sur place. Paris, qui est la ville la plus touristique au monde, et aussi encore un gros pouvoir d'achat, donc on a une grosse consommation de champagne. Ce qui est nouveau ces trois dernières années, c'est que la France représentait un peu plus de 50% de la consommation de champagne dans le monde. Et depuis ces deux ou trois dernières années, on a basculé et aujourd'hui, on vend plus de champagne dans le monde qu'en France.
Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de votre culture classique. Qu'est-ce que vous entendez par culture classique du vin? Ce qui me permettra en fait ensuite de pouvoir développer la culture que vous avez développée autour du vin.
Alors, culture classique, c'est une vision assez personnel, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que la culture classique du vin? On fait du vin depuis 2000 ans, enfin, depuis 5000 ans, un peu en Géorgie. Les Chinois faisaient du vin il y a 8000 ou 9000 ans, oui, mais c'était pas des vins modernes avec la fermentation alcoolique. Le vin moderne, il a plutôt 200 ans. Et la culture classique, Quand je disais classique, c'était, moi, j'avais une culture un peu de Grand Bordeaux. Je suis à moitié Poitevin. On n'est pas loin de Bordeaux. J'avais une culture des Grands Bordeaux. Et quelques années, quelques décennies plus tard, on fait des très bons vins. Enfin, on a toujours fait des très bons vins, mais j'ai une culture maintenant de toutes les régions. Et aujourd'hui, j'apprécie aussi bien un grand cru classé de Bordeaux qu'un vin en biodynamie dans le Vaucluse. On a la chance en France d'avoir des pépites, d'avoir vraiment tout un tropisme du vin très large et d'avoir des pépites dans toutes les régions.
D'accord. Vous avez parlé de biodynamie. On en entend parler de temps en temps. Est-ce que vous pouvez préciser pour les auditeurs ce que ça signifie vraiment du point de vue d'un spécialiste ?
Alors, je pense que le vignoble français, on voit une augmentation de la culture bio et en biodynamie assez importante, elle est peut-être de l'ordre de 10% par an. La biodynamie, c'est vraiment une culture c'est vraiment développer la culture du vin en respectant les sols et la nature. C'est une approche vraiment holistique de la vigne qui intègre les cycles lunaires, les infusions de plantes et le travail du sol sans produits chimiques. Donc il y a vraiment un respect intégral du sol et de la plante en considérant aussi la puissance et l'influence des astres. Donc évidemment, pas de produits chimiques. Souvent, on vendange à la main très tôt le matin pour garder la fraîcheur. Donc vous avez quelques vignobles que j'ai pu découvrir ces dernières années qui sont cultivés en biodynamie. Vous avez le château d'Oyac dans le Médoc avec Max et Astrid de Pourtalès. Vous avez Chêne Bleu dans le Vaucluse avec Nicole Rollet. Vous avez Carpe Diem en Provence avec Albéric Philippon ou le château de la Chaise en Beaujolais. Donc alors vous avez aussi bon évidemment Célos en Champagne. Donc toutes les régions aujourd'hui ont leur un peu producteur star en biodynamie. C'est une vraie philosophie. Vous avez une communauté autour de biodivin qui assure la promotion de cette philosophie. Et moi, je suis pas un ayatollah du bio. Il faut faire des bons vins, il faut respecter la nature. Mais quand vous pouvez faire des vins en biodynamie et qui sont exceptionnels, et on s'approche du paradis.
Oui, c'est ça. Il faut aller au-delà de la contrainte technique. Il faut également avoir une efficacité gustative. Parce que dans les traditions, j'avais en tête une maison dans le Champagne, la maison de Gaston Révolte, où c'était le travail des chevaux de trait, qui est également une particularité quasi artisanale et ancestrale. Donc là, c'est un choix de la maison. C'est pas pour autant, effectivement, que ça n'impacte pas le goût, mais ça montre une volonté de chacune des maisons d'avoir ses spécificités et ses savoir-faire. Ce qui fait peut-être d'ailleurs le parallèle avec l'artisanat tonnelier dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être l'occasion de mettre en lumière...
Oui, les métiers, les différents métiers que vous rencontrez, parce qu'effectivement, c'est toute une chaîne de valeur. Pour parler en français. et donc il y a effectivement le métier de vigneron en lui-même, avec j'imagine effectivement quelques spécificités avec justement la récolte, les maîtres de chai et je ne sais quoi comme autre métier. Et effectivement, il y a peut-être aussi des métiers, notamment autour du cheval, de la tonnellerie. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme métier annexe et puis nous préciser peut-être les métiers du vin qui peuvent intéresser tous les auditeurs et éventuellement peut-être des jeunes en formation.
Alors effectivement, le premier artisan dans le vin, c'est le vigneron. Il se lève tous les matins pour cultiver sa vigne, nettoyer ses barriques, élever ses vins, aller sur les marchés pour vendre son vin, aller à l'autre bout du monde pour vendre ses vins, etc. Donc le premier artisan du vin, c'est vraiment le vigneron. Maintenant, autour Et moi, c'est ce qui m'a plu dans le milieu du vin, c'est qu'on avait à la fois un pied dans la terre et un autre pied dans un avion pour aller faire le tour du monde pour aller vendre ses vins. C'est ça qui m'a toujours fasciné et que j'aime encore aujourd'hui. Les métiers connexes au vignoble. Qui sont encore la preuve de l'excellence de l'artisanat. Alors, on retrouve tous les métiers effectivement autour du cheval. On voit de plus en plus de chevaux pour remplacer les produits chimiques et désherber dans les vignobles. On voit une nouvelle culture, une nouvelle approche de l'élevage du vin. On a été très longtemps avec des vins sur mur, boisés, etc. C'est un certain style. Aujourd'hui, on a une approche peut-être un peu plus pure des vins. Vous avez Annabelle Cruz, Bardinet, à Saint-Émilion, Château Corbin, qui élève ses vins avec des wine globes en verre, désolé pour l'anglicisme, des bulles en verre, des barriques en verre.
D'accord.
Là, on pourra lui demander quelle est la vraie définition des wine globes en français. Vous avez quelques propriétés qui ont décidé d'intégrer totalement la fabrique de tonneaux dans leur vignoble. Donc, on peut reprendre l'exemple de Château Smith Olafite, qui a un tonnelier à plein temps sur le domaine et qui fabrique ses propres barriques.
C'est suffisamment spécifique, c'est pas une règle générale.
On le voit quasiment nulle part.
Ah oui,
c'est pour ça que je prends cet exemple, c'est absolument. Que ça n'existe quasiment pas ailleurs.
Alors que dans l'image populaire, on s'attend à le trouver de manière répandue.
Oui, alors sauf que la fabrication de barriques est un métier très très spécifique.
Oui.
Il faut les élever pendant plusieurs années, les faire sécher. Il faut les assembler, ça demande énormément de savoir-faire.
Donc, les brûler aussi.
Exactement, donc tout le monde n'est pas capable d'avoir ce savoir-faire. Et d'ailleurs, à Château Smith Olafite, ils ont embauché un tonnelier. Ils n'ont pas inventé ça du jour au lendemain. Ils ont un tonnelier à plein temps sur place. Vous avez le Château de Chambord aussi, qui a replanté un vignoble de 7 hectares. Un peu plus maintenant peut-être, et qui fabrique ses propres barriques. Et on commence à voir dans certains vignobles les barriques du château de Chambord. Ils les vendent comme le vignoble est petit, ils ont une futaie de chêne de 5000 hectares. Ils ont aujourd'hui la possibilité de faire leur propre barrique en chêne.
Magnifique.
Concernant les différents métiers, quand vous avez vigneron, effectivement, Il y a des assemblages entre les différents cépages, où il y a des spécificités pour certains viticulteurs.
Alors l'art de l'assemblage, c'est absolument passionnant. C'est ce qui fait l'ADN des différents vins ou des différents vignobles. C'est ultra réglementé en France.
Oui.
On aime bien l'administration en France. Là, dans les vignobles, on n'y coupe pas. C'est aussi très extrêmement réglementé. Donc, vous avez différentes règles par appellation. Vous n'avez pas le droit de produire du vin et de le mettre en bouteille dans le village d'à côté ou dans l'appellation d'à côté. C'est interdit. Mmh. Alors que dans d'autres pays, c'est tout à fait possible. En Australie, vous avez un vignoble dans le sud de l'Australie, vous avez le droit de faire 2000 km pour assembler vos vins. Et embouteiller vos vins. En France, on doit respecter les appellations, les villages. Vous avez une exception qui est l'exception de la Champagne.
Oui.
Parce qu'en Champagne, l'ADN de la Champagne, c'est l'assemblage. On assemble les différents cépages. Les principaux sont Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Vous avez un nouveau cépage qui est le Voltis, qui est un cépage résistant. C'est un peu une nouveauté.
Il y a de la place pour la nouveauté, tout de même.
Oui, oui, mais les mentalités évoluent. Il y a 30 ans, à Bordeaux, on ne parlait pas avec les Bourguignons. Et puis, il y a une nouvelle génération qui ont commencé à vinifier dans d'autres régions que la leur, qui sont revenus chez eux, qui ont importé des nouvelles cultures. Moi, je connais énormément de vignerons que j'ai rencontrés quand j'étais adolescent, quand on faisait les vendanges ensemble, et qui sont partis dans d'autres régions que leur région d'origine, dans d'autres pays. Ils sont partis vinifier au Chili, ils sont partis vinifier en Australie, ils sont partis vinifier à Bordeaux quand ils étaient bourguignons, en Bourgogne quand ils étaient bordelais. Et on a vu une évolution sur la culture des vins, sur même le goût des vins. Si on remonte un peu plus loin, je trouve que les régions s'ouvrent de plus en plus et innovent de plus en plus. Vous avez quelques ovnis dans le vin où on a quelques assemblages avec différentes régions, différents pays, etc. Mais on sort de l'appellation. Après, on peut les appeler, si c'est les vins français, on peut les appeler vins de France. Après, on sort et il faut avoir une marque puissante, emblématique, pour réussir à faire connaître son vin quand on est obligé de sortir d'une appellation forte. Oui. Beaune, et j'en passe. D'accord. La Champagne, c'est un exercice intéressant parce qu'une fois de plus, on peut assembler des vins de différents villages, de différentes régions, de la montagne de Reims, la vallée de la Marne, l'Aube, et on peut faire une seule bouteille qui sera toujours un champagne. Mais la Champagne ne vient que de la Champagne. Mais on peut de différents villages, différents cépages et différents millésimes, pour ne pas dire vintage.
C'est ça, c'est ça. Si ça ne vient pas de la Champagne, c'est dans ce cas-là, c'est du crémant ou du vin mousseux.
C'est des vins effervescents, mousseux, etc. Méthode traditionnelle. Souvent, on entend méthode traditionnelle. Et on a des très, très bons créments en Bourgogne, en Alsace, dans la Loire, avec d'autres cépages. La Champagne a la part du Lion, mais les cousins dans d'autres régions qui font des vins effervescents font aussi des très très bons vins.
Et tout ça, c'est éminemment très réglementé, parce que j'ai en tête quelqu'un qui s'était lancé dans l'aventure de mettre des feuilles d'or dans du champagne, mais la transformation fait qu'on ne peut pas appeler ça du champagne, et fondamentalement, évidemment, tout est extrêmement strict. Donc le marché ou des quelques créativités artistiques comme ça plaît à la clientèle, mais on ne joue pas avec le nom.
Alors, effectivement, on a un ami commun, il se reconnaîtra. C'est très, très réglementé. Vous ne pouvez pas mettre de l'or alimentaire dans le champagne. Vous faites un vin effervescent. Vous n'avez plus le droit, effectivement, de l'appeler champagne. D'autres maisons ou dans d'autres univers ont été confrontés à ça. Vous avez une influenceuse australienne qui était très forte, qui s'appelait... Madame Champagne, je crois, et le jour où elle a commencé à faire la promotion du Prosecco, le comité Champagne lui est tombé dessus en disant tant que vous ne parlez que de Champagne, vous pouvez utiliser le nom Champagne, mais si vous sortez de la Champagne, vous pouvez plus le faire. Vous avez dans le monde entier des bars à Champagne. Le comité Champagne a un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros pour lutter juridiquement contre l'utilisation abusive de la marque Champagne. Et on a vu ça aussi dans le parfum. Le parfum Champagne a été interdit.
D'accord. Vous êtes sur le Libre Journal des Artisans, première partie, animé par Benoît Aguelon et avec mon comparse Benoît Duchâtelet, donc et de Benoît. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Vladimir Kaufmann, Turkestanski, excusez-moi, pour parler de champagne et plus largement de vin avec la revue Vinicole Internationale. Vladimir, qu'est-ce que vous pouvez noter aujourd'hui, là je parle à l'éditeur, le rédacteur en chef de la revue Vinicole Internationale, les tendances en termes de consommation, alors d'abord français, et puis comme vous avez une revue Vinicole Internationale, les tendances de consommation des consommateurs étrangers vis-à-vis des vins français?
Alors d'une manière générale, la consommation de vin dans le monde et en France baisse. On a subi une énorme baisse de plus de 60% ces 20 ou 30 dernières années. Donc aujourd'hui, il y a une grande crise dans le vin. Donc moi, j'aime à penser qu'on boit moins, mais il faut qu'on boive mieux. Donc des vins mieux faits, la qualité, une plus grande pureté dans le fruit. Voilà, donc il y a une grosse concurrence aujourd'hui avec la bière, les spiritueux artisanaux qui font du très bon boulot, mais il y a une grosse concurrence réelle aujourd'hui dans la consommation de vin dans le dans le monde et en France.
Et vous voulez que, pardon je vous coupe, mais vous voulez qu'on demande à nos auditeurs de rattraper ça de manière à augmenter un peu ces statistiques à la baisse, mais l'idée d'aller vers du mieux est de toute façon une bonne nouvelle du coup.
Oui, alors avec modération, vous pouvez demander à vos auditeurs ce que vous voulez. donc non, mais c'est une réalité. Il y a une grosse déconsommation dans le vin, donc il y a une grosse crise dans le vin. On voit beaucoup de petites sociétés, de petits vignobles en difficulté. Le ministre Laurent Saint-Martin était il y a une semaine à Cognac pour annoncer. Encore des primes,
des
mesures de soutien et des primes à l'arrachage pour toute la filière du cognac. C'est une réalité. Vous avez des vignobles qui ne vendent plus leur vin. Les grands vins en primeur à Bordeaux, c'est un bon indicateur. Les grands vins de Bordeaux sont connus dans le monde entier. De l'année dernière, pendant les primeurs, j'organise tous les ans une tournée pour visiter les propriétés à Bordeaux pour les primeurs, et on note les vins avec l'ERVI. C'est un exercice qui est passionnant. On est toujours agréablement surpris sur la qualité des vins. En revanche, sur les prix, l'année dernière, les prix ont baissé entre 20 et 30%. Ils ont rebaissé cette année entre 20 et 30%, et les vins ne partent pas tout à fait comme on voudrait. Donc il y a une grosse crise qui est liée à un changement de mentalité, un changement dans le monde sociologique, de comportement, d'habitude de consommation. Est-ce que les gens vont moins au restaurant? Est-ce qu'ils boivent moins de vin? Certainement. On a une montée significative, mais ils partent de très peu de volume du nolo, donc comprenez les vins non alcoolisés, faibles en alcool ou sans alcool. Moi c'est pas trop ma came. En revanche, j'ai eu l'occasion de boire, j'ai bu quelques vins sans alcool chez mon ami Joss de Villebois. Entre Sancerre et la Touraine, qui font des vins à boire pas désagréables.
D'accord. Mais un vin sans alcool, c'est du jus de raisin.
Alors, un vin sans alcool est élevé comme un vin normal et désalcoolisé par la suite. Donc, en plus, il y a un process, il y a du transport, il y a un process chimique, il y a un bilan carbone supplémentaire avec le transport. Ça change de chez, etc.
Mais la simulation gustative est au rendez-vous. Pour l'objectif qui s'était fixé, ça l'éloigne quand même d'un jus de raisin et ça ressemble à...
C'est loin de ma culture du vin. Maintenant, il y a un public, mais c'est pas anodin, si tu veux. Moi, je suis tout à fait pour cette nouvelle tendance parce que au début, la RVI, c'est une revue économique autour du vin. Et donc, le premier dossier qu'on a fait dans le vin, j'étais un peu dubitatif. On me tordait un peu le bras pour parler de cette nouvelle tendance, parce que c'était pas ma culture et c'est pas la valeur ajoutée que je voulais apporter dans la connaissance du vin. Et en discutant avec les vignerons, ils m'ont expliqué qu'en ce moment, la conjoncture était difficile pour vendre du vin et que cette nouvelle catégorie pouvait représenter jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Et 10% dans une oui, petite entreprise, une PME familiale, ça compte. Et c'est ce chiffre qui m'a décidé à plus m'intéresser au nolo et à faire mon premier dossier sur cette catégorie.
Oui, évidemment, 10%.
Donc les mentalités changent en profondeur. La concurrence aussi la concurrence du Nouveau Monde. Alors on parle de l'Ancien Monde, l'Europe, et du Nouveau Monde, la Californie, l'Australie, etc.
Afrique du Sud.
Et puis on parle pas du Nouveau Monde. Ça c'est une expression que j'ai inventée. Vous avez l'Ancien Monde avec les vins européens. Vous avez le Nouveau Monde qu'on vient de citer. Vous avez le Nouveau Monde. Donc c'est la Chine, c'est des vins qu'on peut trouver en Birmanie, en Thaïlande, c'est des alors le Chili c'est l'ancien Nouveau Monde ou le nouveau Ancien Monde comme vous voulez, mais ils font des vins aujourd'hui qui sont extraordinaires. Vous avez les Carménères en altitude du Chili extraordinaire. Alors, vous avez des vins pour tous les jours, comme Irazuriz. Vous avez des très grands vins qui sont au niveau des premiers grands crus des premiers grands crus de Bordeaux ou des grands vins de Bourgogne, comme Senna. Et vous avez des vins raisonnables. Senna a sorti un second vin récemment, il y a 2 ans, qui s'appelle Rock de Senna, ou Roques de Senna. C'est extraordinaire. C'est du Carménère. C'est un vin qui est dans la fraîcheur, en altitude, et c'est, en termes de prix, relativement accessible.
Non, mais on va assumer le fait d'être chauvin quand il le faut, et en revanche, on peut reconnaître quand les savoir-faire existent également à l'étranger.
Il faut connaître ses ennemis. Et aujourd'hui, il y a 10-20 ans, nos ennemis, c'est la concurrence internationale. Donc, il fallait que les différentes régions se parlent et travaillent à l'export et sur l'image du vin ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, nos anciens ennemis doivent être nos nouveaux amis parce que c'est toute la culture du vin dans le monde qui est en danger. Donc, il faut pousser les consommateurs du monde entier à apprécier les bonnes choses et les bons vins. Et moi, je suis français, je suis né en France, je passe la moitié de ma vie professionnelle dans les vignobles. J'aime les vins français, j'aime aussi les vins étrangers.
Et puis, notre patron d'émission soulevait le côté plume que vous incarnez. Donc, vous vous devez aussi à cette objectivité d'un marché qui change, qui évolue. Et voilà, le nom de la revue est international. Donc, il faut aussi savoir ce qu'il se passe partout dans le monde.
Ça fait partie de la culture générale. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière. Et nous
un mythe tombe.
Nous non plus.
Nous non plus, exactement.
Vous avez, parlant un petit peu de rivaux de raffinière, on va faire un petit peu de publicité pour la maison particulière.
En souvenir de votre grand-mère.
En souvenir de votre grand-mère. Donc vous possédez vous avez des viticulteurs, vous possédez vous-même des arpents de champagne, ou vous faites venir effectivement par assemblage d'autres éléments. Parlez-nous un petit peu de votre champagne.
Alors, merci pour cette occasion, parce qu'on passe un peu sous le radar avec cette maison de champagne qui n'a que 10 ans. J'adorais ma grand-mère, qui s'appelait Isabelle. Elle avait 2 sœurs, tante Maude et tante Guylaine. Il y en a une qui était danseuse professionnelle aux États-Unis, et l'autre qui restait dans sa propriété familiale en Poitou. La famille Rivaux, c'est une famille de Charente. Le général Rivaux était un général d'empire de Napoléon, qui a gagné la bataille de Montebello, de Lübeck, qui a perdu sa jument qui s'appelait Grise sous lui à la bataille d'Austerlitz. Donc c'est un nom qui fait partie de l'histoire française. Le nom du général Rivaux est gravé en bas de l'Arc de Triomphe avec les d'autres généraux plus connus. La descendance du général Rivaux s'est fait connaître plutôt dans la finance et l'entrepreneuriat avec la banque Rivaux. Les banquiers Rivaux étaient mes grands-oncles. Ils ont quitté Cognac à 20 et 24 ans, orphelins de leur père, avec une ferme, avec un vignoble qui était en faillite, pour aller en Indonésie, pour aller développer l'activité du caoutchouc.
Oui.
C'était au début du 20e siècle, avec l'explosion de l'automobile et du caoutchouc pour les pneus. Merci à Dunlop, à Michelin, à Goodyear et j'en passe. Ils sont arrêtés en chemin parce que au sud de la Malaisie, aujourd'hui c'est Singapour, mais à l'époque Singapour n'existait pas. La Malaisie était un protectorat anglais à l'époque. Ils sont arrêtés pour faire une pause pendant leur voyage et ils se sont rendus compte que la culture du caoutchouc et la possibilité pour 2 jeunes Français de s'installer et de créer une entreprise autour du caoutchouc dans le sud de la Malaisie en 1920 était quelque chose de tout à fait accessible, alors que l'Indonésie était plus loin, plus incertaine,
plus néerlandaise,
plus dangereuse à l'époque, etc. Donc ils sont installés en Malaisie, ils ont fait fortune avec leur activité de caoutchouc. Et pierre par pierre, ils sont revenus en France, ils ont développé leur activité de caoutchouc, ils ont racheté les bateaux qui transportaient leur caoutchouc, ils ont développé des usines, et quelques décennies plus tard, ils faisaient du financement de projets, et c'est devenu aussi la banque Rivaux, qui a eu quelques décennies de gloire, et qui n'existe plus aujourd'hui. Donc le nom Rivaux a une certaine... connotation d'excellence et d'entreprise encore aujourd'hui en France. Le nom a disparu parce que la banque Rivaux n'est plus. La famille Rivaux, il n'y avait que des femmes, donc n'est plus. Et avec l'accord de ma grand-mère, j'ai pu reprendre le nom et appeler mon champagne le champagne Rivaux. Ça, c'est pour la partie historique.
D'accord.
Pour la partie plus œnologique, je me suis installé à Épernay. Je suis négociant. Je travaille avec une famille, avec la famille Rapneau, à qui je rends hommage aujourd'hui parce qu'ils m'ont aidé depuis le premier jour et c'est un partenaire exceptionnel. C'est la famille Rapneau et mon partenaire technique, œnologique. Je suis tout seul dans l'aventure du champagne Rivaux. Mais sur la partie technique, j'ai un vigneron. Je ne suis pas propriétaire de vigne, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un artisan. Et le prix d'un hectare en Champagne varie entre 1 et 2 millions d'euros l'hectare. Donc, comme petit artisan, il y a 10 ans, je n'ai pas voulu me lancer dans cette aventure. J'ai préféré avoir beaucoup plus de flexibilité sur le choix de mes cuvées.
Oui.
Je fais le champagne que j'aime, l'assemblage que j'aime, conseillé par Christophe Rapneau. Ça reste mon champagne avec le champagne que j'aime avec les cuvées sur les marchés que j'envisage, que je vise. On a mixé une histoire incroyable française, la possibilité de faire du champagne avec un partenaire unique en Champagne. La famille Rapneau ont 200 hectares en Champagne sur plus de 60 parcelles différentes dans toutes les régions, dans tous les villages de Champagne, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un choix. Une possibilité de faire des différentes cuvées avec des assemblages en pinot noir, en chardonnay. On fait un blanc de blanc 100% chardonnay avec des raisins, avec des grands crus de Chouilly. Avant, on a fait une cuvée en blanc de noir, en assemblage chardonnay et pinot noir. Donc, je peux faire... d'une année sur l'autre, on s'y prend quand même 5-6 ans à l'avance, parce qu'on élève les vins les vins sont élevés pendant 5-6 ans, donc le champagne Rivaux de la raffinière, c'est un grand champagne, on fait des grandes cuvées avec des raisins avec des grands raisins, et surtout on attend 5 ou 6 ans avant de dégorger les champagnes et de les distribuer.
D'accord, alors j'ai une dernière question. Cette émission sera diffusée le vendredi 25 juillet. Qu'est-ce que vous conseillez pour à boire au bord de la piscine, avec modération toujours, ce fameux modération? Qu'est-ce que vous conseillez à part le champagne Rivaux? Question piège.
C'est une bonne question. Le rosé pour l'été, il y a des très bons rosés, des rosés de Provence, vous avez aussi des très bons rosés du Languedoc ou des rosés de Loire. Alors le champagne, c'est servi bien frais au bord de la piscine, c'est parfait. Après, au bord de la piscine, Un rosé, alors très frais, je dirais un rosé en biodynamie de la Provence verte, Carpe Diem. Magnifique, avec des arômes de chèvrefeuille et beaucoup de fraîcheur. Là, vous allez sortir un peu de votre zone de confort.
Exactement, mais on sait qu'on a affaire à un expert, on en profite.
Et j'aime aussi alors un blanc très frais de Sancerre, de l'Estang. Ça, c'est un vin magnifique, très droit. Ça, vous allez vous régaler. Et un rouge frais. Il ne faut pas sous-estimer les rouges bien frais l'été.
Oui.
Un 2012 de Chêne Bleu dans le Vaucluse. Là aussi, vous sortez des routes que un peu que tout le monde connaît. Vous faites une heure de voiture pour monter au Creuset dans un petit village. Au pied des dentelles de Montmirail, et vous arrivez dans une propriété exceptionnelle qui était un monastère il y a 25 ans, qui a été repris par la famille Rollet. Et le matin, vous vous réveillez avec les marcassins dans les vignes, vous levez les yeux, vous avez les dentelles de Montmirail juste devant vous, et ils font un vin extraordinaire qui mérite d'être bu au bord de la piscine ou à table avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez.
D'accord.
Un grand merci de nous avoir offert cette liste pour l'été et nous faire voyager comme ça, parce qu'à chaque fois, on y est, on retrouve la France et nos terroirs, c'est merveilleux.
Merci beaucoup, Vladimir. Maintenant, on va passer le bobino pour aider la radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors bonjour, vous êtes toujours sur le Libre Journal des Artisans, première partie animée par Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet. Donc les deux Benoît sont là, autour de la plume, le vin, autour de l'univers du vin, la plume et la matière. Aujourd'hui, nous accueillons maintenant Anthony Huyn, qui est artiste et qui travaille autour de l'univers du vin. Anthony, bonjour.
Bonjour Benoît. Bonjour Vladimir.
Donc, vous inspirez de l'univers du vin. Parlez-nous-en. Quel est votre parcours et pourquoi l'univers du vin?
Ben en fait, tout a commencé en 2010. À l'époque, j'étais responsable dans la restauration et je peignais dans mes heures perdues et j'y connaissais rien dans le monde du vin. À cette époque-là, j'y connaissais absolument rien. Et donc, j'étais à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et il y a une cave à vin qui s'appelait le Chez numéro 5 qui a ouvert là-bas. Et ils m'ont demandé de travailler sur leur identité visuelle. Et du coup, Chez et numéro 5, ça m'a fait penser à Chanel numéro 5. Et de là, j'ai commencé à travailler avec le numéro 5 de Chanel, mélanger les codes du vin et les codes de la mode. Donc la robe rouge du vin, la robe rouge de la mode. Et de là, j'ai créé une collection autour du monde du vin et de la mode.
D'accord.
Donc là, on est dans les années 2010. Et après, j'ai appris que le 5 a commencé à prendre du sens par rapport au classement des vins de Bordeaux. Enfin, il y a eu plein de liens qui se sont créés par rapport à ce que je crée et le vin. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je suis descendu sur Bordeaux pour une exposition. Et je devais juste descendre avec un sac à dos et mon expo. Et j'y suis resté pendant 4 ans.
D'accord.
Et là-bas, j'ai fait des rencontres exceptionnelles avec des vignerons, des restaurateurs et du coup Grégory Pécastin, qui est le directeur du musée du vin et du négoce de Bordeaux. Et donc cette rencontre m'a fait baigner dedans, il m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui sur le monde du vin. Et j'ai commencé à créer des tableaux autour des bougeons. Donc j'ai commencé à reproduire en noir et blanc des tableaux de composition de bougeons.
Mmh.
Et m'est venue l'idée de les personnaliser. En fait, j'avais des bouchons de Bordeaux qui se mélangeaient et je me suis dit pourquoi je ne raconterais pas l'histoire d'une personne grâce à ça. Et de là m'est venue l'idée de faire des tableaux en mélangeant des bouchons de grand vin ou pas et de mettre les années concernant une famille. Admettons, je vous mets votre année, celui de votre épouse, vos enfants, votre année de mariage et je cache des années, des codes dans le tableau.
D'accord.
Et du coup, je personnalisais une œuvre qui était déjà très très personnelle.
D'accord. En fait, vous êtes. On n'a pas l'habitude à Radio Courtoisie d'avoir des artistes contemporains, et l'art contemporain aujourd'hui est largement sujet à caution.
On pourrait même avoir des émissions dédiées sur l'art contemporain. Mais avec Anthony, non, on revalorise la modernité.
L'art contemporain avec un artiste vivant.
Exactement.
Donc on est très heureux de pouvoir prendre un petit peu contre-pied et de faire découvrir ça à nos auditeurs. Alors, pour petite information, nous sommes diffusés le vendredi 25 juillet. Et donc vous pourrez suivre sur les plateformes de Radio Courtoisie, dont YouTube, la vidéo de notre émission, et donc de voir les œuvres d'Anthony qui sont présentes de part et d'autre du studio, et que vous voyez pour ceux qui regarderont.
Oui, voilà. On peut faire une petite parenthèse sur ce qui est derrière nous également, que je descends parce que Anthony a eu la gentillesse de faire rentrer Astérix et Obélix dans les studios, donc on le remercie et il expliquera tout à l'heure d'où vient cette déclinaison de nouveaux tableaux, l'aventure dans laquelle il s'est lancé après.
Merci.
Donc voilà de l'interactif de la radio pour nos chers amis. Est-ce que vous pouvez décrire, Anthony, le tableau qu'on a pu montrer pour nos téléspectateurs?
Oui, en fait.
Quelle démarche avez-vous eue?
La démarche, elle remonte à 2016. Donc j'étais à Bordeaux encore. Et devant mon bâtiment, je retrouve un bloc de polystyrène qui mesure 1 mètre sur 1 mètre, 30 cm d'épaisseur. Je pense que c'était un truc de chantier, un bloc de chantier. Et plusieurs jours, il était devant mes yeux et je passais devant tous les jours. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais le récupérer. Et de là m'est venue l'idée de le retravailler. Donc du coup, j'ai commencé à creuser dans le polystyrène et je lui ai donné un rendu pierre bordelaise.
D'accord.
Donc c'était un mur beige avec des joints. Tout ça en trompe-l'œil et en grattant dedans, donc repeint. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire dessus? Et l'idée, c'était j'ai fait un mur de la paix. Donc en fait, j'ai fait un portrait de John Lennon, un peu pop art, et de l'autre côté, j'ai fait en trompe-l'œil des impacts de balles représentant le signe de la paix.
D'accord.
Voilà, du coup, c'était un tableau un petit peu engagé, mais à la fois, voilà, ce que j'ai toujours entendu dire que la paix, c'était qu'une zone entre deux guerres, en fait. C'était qu'une période entre deux guerres. Donc j'ai voulu travailler un peu sur ce sujet, et j'ai fait le symbole de la paix en impact de balles.
D'accord.
Et tout ça en trompe-l'œil sur un polystyrène. Donc, visuellement, vous avez l'impression, comme ce tableau, d'avoir un mur devant vous. Sauf que c'est super léger. Et là, on voit, par exemple, le creuset, les craquelures, voilà. D'accord. Mais en fait, c'est super léger.
Et justement, ce tableau-là, particulièrement pour les Parisiens, vous avez une plaque marquée rue de Lutèce. Et au-dessus, une représentation graphique d'Astérix et Obélix.
Oui. Et il est fixe.
En fait, ça, c'est une composition entre le travail d'un copain à moi qui s'appelle Épisodique. Donc, il travaille sur ordinateur, il fait des dessins de ce style, très graphique. Et je me suis dit, bon, je vais te prendre ce dessin, ce qui me plaît, et je vais le composer avec une plaque de rue. Et j'ai trouvé, rue de Lutèce, je trouvais ça très intéressant de faire ce détournement avec Astérix Obélix. On dirait un voyage dans le temps, comme s'ils sortaient du mur, rue de Lutèce, on est aujourd'hui, mais ils sont là, quoi.
Et ça fonctionne très bien, et d'ailleurs, vous l'avez décliné également pour des artistes classiques.
En fait, j'ai créé une collection qui s'appelle Hors les murs.
Oui.
L'idée, c'est d'avoir la sensation de voler un mur dans...
Un morceau de mur,
voilà. En fait, parce que Banksy, par exemple, qui est l'artiste street art...
Qu'a percé.
Voilà. Et il se fait voler ses œuvres dans la rue.
Tout à fait, oui.
Voilà, et c'était aussi un message pour ça. C'est se dire, bon, les street artistes sont censés être des vandales, dans la définition de la loi, mais en plus de ça, ils ont pas le droit, mais d'un autre côté, on leur vole leur tableau, quoi. Enfin, on leur vole leur mur. Et du coup, j'ai voulu créer cette sensation de mur découpé.
D'accord.
Et là, j'étais plus loin, c'est que j'ai travaillé sur les grands maîtres. Donc, j'ai fait une étude sur les tableaux, enfin, sur les artistes les plus connus, on va dire, depuis des siècles. Et j'ai créé une collection hors les murs sur ces grands maîtres. Et j'en ai fait vraiment une déclinaison, comme si aujourd'hui, ils peignaient dans la rue, quoi.
Vous pouvez citer quelques-uns pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui existe aujourd'hui.
Par exemple, le plus impactant, c'est La liberté guidant le peuple de Delacroix. En fait, à Amiens, dans ma ville, en 2023, il y avait des campagnes d'affichage sur les, contre la retraite.
Oui.
Et en fait, le panneau d'affichage en lui-même était comme une œuvre déjà. C'était arraché. Il y avait notre président Macron en Napoléon,
oui.
Avec au-dessus marqué non à la retraite. Enfin, il y avait vraiment cette chose-là. Et je m'en suis servi de fond, sur lequel j'ai fondu le Delacroix. Et le tableau, enfin, je ne sais pas si vous pourrez le montrer en photo, mais en fait, le tableau se fond dessus. Et c'est la version actuelle de la liberté guidant le peuple. Ce serait peut-être une version 2025 de ce tableau.
Alors, effectivement, les auditeurs retrouveront dans le détail de l'émission les accès à.
Et ça, c'était bon, c'était un peu le tableau parce que j'ai. Enfin, je suis pas. C'était dans la collection des grands maîtres. Mais j'ai refait des choses pop art de Roy Lichtenstein. J'ai repris un Monet aussi, un tableau qui est hyper classique. C'est l'impression soleil et le vent.
L'impression soleil et le vent.
Voilà, en fait, ce tableau, normalement, il est au musée avec un cadre doré très classique.
Oui,
et je l'ai rendu vraiment contemporain avec un effet pierre méditerranéenne. Voilà, chaque tableau est travaillé vraiment, est unique.
Et alors, le mot que vous avez utilisé, c'est le trompe-l'œil, et c'est effectivement ce qui fait le lien dans vos différentes créations. On l'a montré avec la rue de Lutèce, mais avec ce qui vous entoure également, parce que là, ce sont des reprises de bouchons de Liège qui reprennent quelques grands crus, qui peuvent être déclinés et personnalisés.
Oui, en fait, j'en reviens donc à ce que je vous disais mon tableau noir et blanc de bouchons, où je personnalisais avec le nom de mes clients. Et je me suis dit, bon, mon ambition, ce serait de faire de ce tableau une sculpture. Et du coup, je me suis posé la question, comment je fais des bouchons XXL, en fait?
Oui,
d'accord.
Et si je prends théoriquement, c'est un bouchon, j'ai juste un cylindre.
Oui.
Donc, je me suis dit, je vais prendre des poteaux de bois, je vais les couper au diamètre qu'il faut. Du coup, un vrai bouchon de vin, c'est 5 sur 2 diamètre. Mais je vais faire x 100 et j'ai des bouchons qui font 50 avec un diamètre 20.
D'accord.
C'est-à-dire que certains deviennent sont suffisamment grands pour être des sièges, et ensuite là vous avez les déclinaisons des deux autres tailles qui existent.
Et là voilà, ça c'est le classique qui est ni trop lourd, ni qui. Voilà, c'est le bon.
Vous avez un grand bouchon de 50 par 20.
50 par 20, oui.
Qui est en bois, en liège.
Ceux-là, c'est un trompe-l'œil liège, parce que le liège.
Trompe-l'œil liège, oui.
Le liège, si je peux mettre un revêtement liège, mais j'aurai jamais les gros grains.
D'accord.
Parce que par définition, ce serait des petits grains, quoi.
Oui.
Donc moi, je veux vraiment le trompe-l'œil avant tout.
D'accord.
Donc là, c'est des grains dessinés. On a la sensation d'avoir un bouchon de liège, mais sauf que c'est en trompe-l'œil.
D'accord. Oui, parce qu'on n'a pas encore inventé la machine de chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc, effectivement, le grain, vous êtes obligé de reproduire un grain qui soit à l'échelle aussi.
C'est ça.
Donc, ce sont des professionnels du vin qui vous ont initié à l'univers du vin par leur métier et leur quotidien.
Oui, mais je l'ai vraiment là détourné pour le particulier.
Et du coup, vous, c'est un détournement pour le particulier ou des commandes
ou des professionnels de la restauration d'hôtellerie.
Exactement.
Et au début, je m'amusais à recopier des vins connus, comme là ici, Château Latour, par exemple. Et après, je me suis dit, bon, je vais arrêter ça, question de droit, etc. Et je vais aller plus loin que ça. Par exemple, Benoît, je peux vous faire votre maison.
Lequel?
Non, mais je vois votre maison de campagne, par exemple, en dessin de ce même style, avec votre nom, donc château du Châtelet, votre année de naissance au-dessus et dessous, et mise en bouteille par vous, par exemple. Et c'est
donc
ça l'idée.
Ça permet d'avoir une création artistique sans avoir acheté de cépage.
Exactement.
Ah, ouf.
Vladimir.
Alors, vous parlez des droits. Est-ce que vous avez eu des embêtements avec les châteaux, les propriétés, justement, sur
votre... J'ai eu pas mal de...
C'est plutôt du positif de mettre en valeur le vin, leur maison... Par l'art. Nous, on a une rubrique dans la RVI sur l'art et le vin. C'est une des rubriques les plus consultées. Les gens adorent.
Vous prendrez un petit moment après l'émission pour vous retrouver.
Mais en fait, j'ai eu énormément de commandes de vignerons. Par exemple, Clos Joliette dans le Jura. J'ai eu Château Le Puy, Bellargus dans le Loir. Enfin, j'ai eu vraiment pas mal de commandes de pas mal de vignerons. Sauf que je sais qu'à Bordeaux, j'ai eu le trio gagnant en recommandé. J'ai eu Petrus, Margaux et Mouton Rothschild.
Pour une commande, bien sûr.
Pour une décommande.
D'accord.
Donc en fait, ils ont vu que sur les réseaux sociaux, je publiais des photos de leurs bouchons. Bon, ça ne leur a pas plu. Et donc j'ai répondu et je leur ai dit, écoutez, j'arrête. C'est pour ça que je préfère décliner maintenant sur du particulier ou sur des
personnalisations.
Voilà, personnalisation, il y a tellement de business à faire sur les restaurants, sur les particuliers.
De travail.
Oui, de travail, pardon.
un petit franc dans le cochon.
Malheureusement, l'art n'est pas totalement libre. On aimerait penser que l'art est libre, mais on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'est-ce qui fait... Alors, moi, j'ai une passion pour l'art et les artistes de rue. Pourquoi le monde a changé entre les années 80, où quand on était un artiste de rue, on passait la nuit en prison, et aujourd'hui... où un artiste de rue va plutôt passer sa vie dans un musée.
Bah en fait, il y a deux lectures. Il y a les artistes, on va dire vandales, qui s'amusent juste à faire des graffitis, des tags. En gros, c'est juste leur signature sur des murs. Ce qu'on voit sur le périphérique parisien,
oui.
Ce qui n'est pas vraiment considéré comme de l'art en tant que tel.
Non, c'est plutôt des dégradations.
Voilà, et plutôt ce style plutôt graphe, dessin. Ils aiment s'appeler même muralistes aujourd'hui, plus que street artistes. Ils n'aiment pas ce côté street artiste. Il y a des artistes aujourd'hui, une nouvelle vague, qui se font appeler les muralistes. Et ils sont même subventionnés par les mairies, par les villes pour décorer des tours, des murs. Et il y a vraiment deux mouvances, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a
et
quand
la
même...
question de Vladimir, c'est qu'il se retrouve aussi en galerie alors qu'avant. Voilà.
Oui, il y a une tendance quand même d'artistes qui ont commencé à taguer des trains et qui sont devenus des grands artistes maintenant en galerie. Et j'ai pas de réponse. C'est
une réalité de marché qui vous convient parce que ça vous permet aussi d'évoluer.
Ouais, c'est le marché, ils sont dénichés. En fait, c'est le marché de l'art est très particulier. C'est comme le monde du vin, il y a plusieurs niveaux. Et quand on est au niveau dessus, c'est vraiment. Il y a une poignée de personnes qui font appuyer le beau temps, quoi.
En fait.
Et les recommander, pardon.
C'est ça. Votre univers, donc vous avez ce produit.
Oui.
Ce produit bouchon, vous travaillez sur le relief.
Oui.
Mais vous travaillez aussi à plat.
Oui. En fait, j'ai commencé sur des toiles classiques, toile coton, linge. Je faisais de la peinture. J'avais une tendance très hyper réaliste.
D'accord.
Donc j'ai travaillé vraiment. Enfin, j'ai eu une époque portrait. J'ai plus de 10 000 portraits de particuliers qui se baladent en France et un peu ailleurs.
D'accord,
ouais, j'ai fait
une belle production.
Ouais, j'ai fait du portrait enfant, chien, couple. Enfin, vraiment, voilà, c'était alimentaire, on va dire.
Mmh. Et en même temps, une école de maîtrise.
Oui, pour moi, c'était l'exercice. C'était l'exercice qui m'a permis aujourd'hui de maîtriser les traits et de faire des choses maintenant qui me bottent plus, quoi.
Et le fil rouge, c'est finalement aujourd'hui, quelles que soient les déclinaisons en 2D ou en 3D, c'est le trompe-l'œil.
Oui, trompe-l'œil, j'adore, voilà, tromper l'œil, c'est le...
Et ça marche,
mais
parce que
trompe-l'œil, mais moderne. Pas le tableau de nature morte, trompe-l'œil à l'huile à l'ancienne, que je critique pas du tout, c'est du travail, très beau travail. Mais aujourd'hui, je considère que je fais de l'art décoratif.
Oui.
D'accord.
Je rentrerai certainement jamais dans des ventes aux enchères d'art contemporain, ou j'en sais rien, mais je fais des choses très commerciales, entre guillemets.
D'accord. Vous déclinez un univers de marque dans votre univers.
Oui, je détourne, mais aujourd'hui j'essaie de moins en moins toucher aux marques et toucher à des choses et de vraiment personnaliser les... travailler pour les marques.
Ou des univers de personnes, ça peut être aussi bien des particuliers que des entreprises.
Oui, absolument.
Mais ça c'est comme dans beaucoup d'activités professionnelles, on démarre avec une idée, puis le marché vous rattrape. Oui. Et puis on se cale soi-même finalement avec un nouveau rythme, un nouveau mode d'emploi. Mais ça ne freine pas le talent et ça donne d'autres idées. Donc
Mais j'ai aussi une casquette de décorateur en fait. Malgré moi, je me le proclame pas, mais je travaille pour beaucoup d'entreprises pour lesquelles je décore leur intérieur.
D'accord. Ils ont un peu mieux parce que.
Ben en fait, ouais. Par exemple, pour une boîte, enfin, j'en reviens au mur, mais pour une boîte de bâtiment dans ma région qui est la Picardie. Donc moi, je suis amiénois. J'ai bossé pour plusieurs boîtes de bâtiments, dont une de construction, et je leur ai fait par exemple sur un effet mur, un mur cassé avec treillis soudés à l'intérieur, et j'ai gratté leur logo comme si c'était un morceau de mur d'un chantier récupéré.
D'accord.
Par exemple. Et je leur ai fait aussi une boule de destruction dans leur entrée de bâtiment. En fait, c'est une grosse boule en polystyrène avec un effet craquelé sur le fond et peint en argenté. On a l'impression d'avoir une boule en métal avec une chaîne.
Il manque plus qu'une chanteuse dénudée à la mode pour donner du réalisme à tout ça.
Et c'est vraiment cet effet trompe-l'œil, j'adore ça, quoi.
D'accord. Les matières que vous travaillez principalement, c'est
aujourd'hui du coup c'est polystyrène, bois, planche en bois, plexi, des planches de PVC blanches aussi. Enfin, je travaille toutes les matières aujourd'hui.
Et non, c'est des points communs entre vous deux, parce que le travail des matières, mon cher, vous savez aussi
oui,
ce que
oui,
c'est.
Oui, et puis c'est surtout aussi le fait que, en moins en tant qu'artisan tailleur, je fournis plus aujourd'hui un service de conseil en images, dont le livrable est le costume, qu'un simple costume. Donc
oui.
je retrouve en Anthony effectivement une approche qui est finalement en fait transdisciplinaire et qui permet effectivement de pouvoir réinventer le métier.
Oui.
C'est comment vous est venue cette idée? Je parle de votre jeunesse, de votre formation.
En fait, ma formation n'a pas vraiment à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
D'accord.
J'ai une formation commerciale, j'ai une licence en marketing et commerce. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours dessiné. Et j'étais toujours inscrit aux options arts plastiques le mercredi après-midi. Le samedi, j'étais dans des centres culturels. Voilà, j'ai toujours été baigné dedans. Et
pourquoi le choix ne s'est pas porté sur une formation artistique? On pourrait presque penser à un artiste contrarié qui.
Non, mais on a toujours la pression familiale qui veut qu'on fasse des études.
Bienvenue en France.
Voilà, oui. La fac d'art, c'est pas forcément.
Ce qui rassure des parents.
Oui, exactement.
D'accord.
Voilà. Du coup.
Il y a sociaux pour ça.
Oui.
Qui rassure beaucoup les parents. Non, effectivement. Donc,
voilà, du coup, j'ai fait ma scolarité classique. J'ai commencé avec un métier classique, faire plaisir aux parents. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis de mon art et.
Ah.
Et voilà, j'ai. Voilà.
Et avec une petite touche d'humilité, parce que plusieurs fois, vous avez rappelé le fait que c'était dans un cadre de décoration, mais sans imaginer de galerie ou quoi que ce soit. Moi, je garde une intime conviction qu'il suffit de continuer et vous serez surpris des bonnes nouvelles que vous aurez.
Oui, certainement, c'est vrai.
Donc, il faut laisser la porte ouverte.
Vous avez... quelle est l'œuvre aujourd'hui qui est marquante pour vous? Je parle artistiquement, et puis après, on va être prosaïque économiquement.
Une œuvre que j'ai réalisée, vous voulez dire?
Oui, une œuvre que vous avez réalisée.
En fait, j'en ai fait tellement. Je fais tellement de personnalisation. En fait, j'ai cette force, si je peux dire, de pouvoir aller chez n'importe quelle personne et de lui faire le tableau de ses rêves, en fait. Sauf que c'est.
Voilà une promesse intéressante. Oui. Tout le monde ne peut pas dire ça.
Oui, je peux le dire, mais sauf que c'est compliqué à vendre.
Oui, c'est vrai.
C'est compliqué à vendre quand je peux dire que, par exemple, chez vous, Benoît, je peux venir chez vous et dire, bon, vous avez ce mur libre, moi, je peux faire ça, votre épouse n'aime pas ça, mais vous aimez ça, je peux vous faire un truc pour vous, en fait.
À force, je vais me laisser tenter, moi. Est-ce qu'on peut refaire un parallèle avec le vin, dans le sens où vous disiez, tout le monde peut, enfin, on peut pas se projeter, on est devant une bouteille dont on connaît la réputation, on est devant un verre qu'il n'y a plus qu'à le goûter, mais tant qu'on ne l'a pas goûté, on se fait une idée.
Oui.
Et vous, c'est pareil, tant qu'on n'a pas eu l'occasion de personnaliser une œuvre, on ne se rend pas compte de ce que ça peut donner.
Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai la chance avec les nouvelles technologies, c'est de pouvoir simuler un petit yaourt d'œuvre sur votre mur.
Ah bah, Vladimir, vous ne pouvez pas simuler, vous? Il faut goûter pour savoir.
Il faut goûter, il faut attendre des années, donc on s'engage. Le travail de... Alors déjà... On a le travail d'aujourd'hui grâce à la vigne qui est là depuis 2000 ans. Et on a des années derrière d'élevage et des décennies ou des siècles d'expertise. Donc, mais je pense que la méthode n'est pas la même. Mais pour être un grand artiste aujourd'hui, il suffit pas de peindre un tableau. Alors Picasso a peint 30 000 œuvres, je crois. Mais il faut combien d'années pour devenir un grand artiste? Ça se travaille, c'est de la répétition, c'est de l'imagination, c'est aussi technique.
C'est ce que disait Anthony sur son expérience des portraits.
Il faut beaucoup de savoir-faire. C'est être un artisan, être un vigneron, être un artiste, c'est des années et des années de savoir-faire.
Faire et défaire, c'est toujours faire, comme on dit.
Mais c'est surtout, je pense, la rencontre aussi qui est importante.
C'est la rencontre.
Ça, c'est très juste.
Parce qu'on peut être le meilleur dans son domaine, si on n'est pas découvert, on n'est personne finalement.
Oui, tout à fait.
Mais la rencontre aussi avec le client, c'est-à-dire que l'inspiration peut venir de la demande. Il y a la maîtrise, comme dit effectivement Vladimir, la maîtrise des savoir-faire grâce à toute une histoire derrière vous.
Oui.
Mais après, c'est cette capacité à sentir les choses avec le client. Et être capable aussi de dire, mais ça c'est possible. Et comme vous disiez, de pouvoir montrer une espèce de simulation en disant, voilà à peu près ce que ça pourrait donner. Oui, est-ce qu'on y va, quoi.
Oui, absolument. Ça, c'est une chance aujourd'hui où, à partir de moi, c'est du visuel que je vends au départ, enfin, que je montre.
Oui.
Du coup, avec une photo de votre salon, un petit travail sur ordinateur et une petite simulation sur votre mur, vous pouvez déjà vous rendre compte de ce que ça peut rendre.
Oui, donc l'évolution de la technique vous aide dans votre rayonnement artistique.
Oui, oui, absolument.
Donc en fait, vous travaillez à la commande avec votre propre sensibilité artistique à laquelle les clients, les amateurs...
Mais j'essaie quand même de prendre du recul à la fois sur mon travail et sur ce que veulent... C'est ce qui fait ma force et ma faiblesse, c'est que je ne suis pas comme la plupart des artistes qui ont une ligne, qui ont une
de force.
Une sorte de signature.
Oui.
Je peux passer du noir et blanc au travail au couteau, je peux faire énormément de choses, j'ai une palette énorme en fait. On va pas forcément reconnaître ma signature. Enfin, il y a toujours une petite technique, on reconnaît un peu la patte, mais j'ai vraiment une palette tellement large que je peux pas dire que je suis sur un style particulier.
Et en même temps, on peut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes sur votre créneau, c'est-à-dire que l'univers de la personnalisation des bouchons n'a pas été jusque-là très répandue. La capacité de créer des œuvres à la fois en création pure ou en reprenant des classiques n'est pas non plus très utilisée.
Oui, c'est vrai que ça se voit pas beaucoup. Et là, justement, sur ce fameux effet mur, je pense qu'il y a quelque chose à développer autour de cet effet. Parce qu'en galerie, même les street artistes aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'on voit, c'est juste des reproductions sur papier, encadrées.
Ça, ouais.
Et je pense que les street artistes, s'ils avaient ce procédé avec eux, ce serait des belles pièces, quoi, des très très belles pièces.
D'accord, mais donc en fait, vous êtes un street artiste qui n'a jamais fait de...
De rue.
De rue. Donc, on dit street artiste parce que de toute manière, c'est pas... Y a pas
Eh bien, je rejoins le mot muraliste. Pour ceux qui ont un sens de la chose plus créative et intéressante.
J'ai un peu peur qu'on mette des ismes un peu partout.
Oui, ça c'est certain.
Par exemple, si je reprenais, vous connaissez certainement Invader, l'artiste de rue avec les mosaïques.
Oui, tout à fait. Par mosaïque d'extraterrestres, de nos jeux vidéo.
Qu'on peut scanner.
Voilà, c'est ça. Bah, en fait, lui, quand il va en galerie, c'est juste son dessin.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, si il y avait la partie mur avec la rue qui va avec le jeu de mots, parce que des fois il y a des jeux de mots aussi entre, par exemple, rue du pinceau, il va faire un pinceau, par exemple, en mosaïque. Je sais pas comment je peux vendre ça, mais on pouvait vendre à ces street artistes ce mur, la partie de mur complète, même pour la décoration chez le particulier. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir un fragment de mur. Que juste la petite partie. C'est comme si aujourd'hui il n'y avait que Astérix et Obélix et Idéfix, par exemple.
Exactement.
C'est ce qu'ils vendent en galerie. Alors aujourd'hui, moi je propose la partie de mur complète.
Peut-être qu'on peut reprendre une idée qui plaira à nos auditeurs, qui est d'imaginer le boulevard Raspail, par exemple, avec un petit drapeau Patagon.
Sans doute, oui.
Et de jouer les déclinaisons de cette nature-là.
D'autant plus que 5 juillet, c'est centenaire de la naissance de Jean Raspail. Donc, pour lequel il y aura peut-être. Je crois qu'il y a 7 cavaliers qui ont fait une opération.
Voilà, donc, nous en parlerons hors émission. C'est typiquement un exemple qui peut trouver un bon écho.
Moi, j'aime bien ta capacité à passer d'un art à l'autre.
Oui.
Les bouchons, le street art, aller tirer à balle sur un Picasso, en plus sans revendication politique.
Absolument
avec une revendication artistique. donc je trouve ça assez génial. Est-ce que tu as des projets de l'Inde Art ou d'œuvres immenses? En ce moment, il y a JR qui est un peu à la mode. Est-ce que tu as des projets un peu comme ça?
J'aimerais justement avoir des projets. Mais je ne vais pas m'amuser à faire une œuvre qui fait 10 mètres sur 5 pour mon propre plaisir. Il faudrait que ce soit une commande.
Oui,
j'en aurai la capacité et ça, il n'y a pas de souci.
Donc le premier qui a la bonne idée dégaine et vous faites ça ensemble.
C'est ça.
Je comprends. En même temps, on perdait un peu la main, mais c'est normal. Vladimir, en tant que journaliste et on parlait
absolument.
De plume tout à l'heure, a dit qu'il avait une page
tout à fait,
art et vin. Donc je comprends l'envie de rédiger déjà les prochains
articles. Mais sur la collection Hors les murs, justement, je suis en train de décliner avec ces histoires de plaques de rue.
Ah oui.
Et je vais appeler ça art de, entre guillemets, rue.
D'accord.
Et du coup, sur beaucoup de plaques parisiennes, je suis en train de faire une série. Là, c'est le deuxième que je fais. Et je vais faire une série de détournement de plaques, en fait.
Donc, on pourrait imaginer, puisque c'est souvent celui qui tire en premier qui gagne,
oui.
qu'un maire d'arrondissement se dise, tiens, ça n'a pas été vu. je saute sur l'occasion, je prends contact avec l'artiste et je prévois une exposition valorisant mon arrondissement.
Oui, bien sûr, tout est
voilà
possible.
Voilà un appel qui mérite
un appel au peuple, un appel au maire notamment.
Au maire intelligent.
Au maire intelligent, bah, et qui vont renouveler leur mandat en mars prochain. Donc il y a sans doute des bonnes idées à prendre. Exactement. Pour qu'ils puissent conserver leur siège. je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, première partie. Donc avec Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet, les deux Benoît qui commencent à faire des étincelles.
grâce à nos invités.
Grâce à nos invités. Alors Anthony Huyn, comment on fait pour vous contacter?
Ben en fait, je suis très actif. Je suis actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Plutôt Instagram.
D'accord, et c'est c'est pour c'est Anthony.
C'est AH artiste sans E.
AH tout attaché, oui. Artiste sans E.
Oui.
Oui, en anglais donc.
Oui.
N'assistons pas, le talent est français.
Sur Instagram. D'accord.
Et c'est d'ailleurs comme ça, lorsque j'avais découvert l'univers, effectivement, premier réflexe de se joindre. J'ai vu la réactivité d'Anthony par ce biais. Oui.
D'accord.
Oui.
Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des idées de nouveau un peu folles? Toujours, vous allez en continuer dans l'univers du vin aussi ou...
Oui, l'univers du vin, ça me tient vraiment à cœur. J'ai une collection, j'ai une série autour de la robe du vin.
Du vin. Voilà, parlez-nous-en là tout de suite maintenant.
Les hommes de mode se retrouvent.
Ouais, comme je disais, j'ai pris les codes du luxe et de la mode pour remplacer la robe rouge des dames par la robe rouge du vin. Et j'ai fait une série comme ça, notamment de danseuses que Vladimir a vu tout à l'heure.
Voilà, qu'on mettra peut-être en illustration effectivement.
Voilà,
pour
en fait,
avoir un accès.
Mettre en illustration.
Voilà, j'ai dessiné des danseuses et j'ai remplacé leur robe voile, enfin les voiles par une projection de vin rouge quoi.
D'accord.
Ouais, c'est magnifique. Je voulais me porter acquéreur, mais je crois qu'il y a quatre tableaux.
Il y a quatre tableaux.
Et je crois
qu'ils
ont trouvé preneur. Ils ont déjà trouvé preneur.
Mais c'est des séries que je peux faire sur commande.
Voilà. On va faire du petit commerce sur Radio Courtoisie.
Non, mais surtout donner de l'envergure. Non, mais donner de l'envergure, c'est ce que disait Anthony en présentant ses savoir-faire. C'est que la limite, c'est celle qu'on se donne. Et effectivement, à un moment, il faut passer à l'étape où il faut structurer et cette capacité à se vendre aussi.
Exactement.
Et quand on est dans une création pure et qu'on est et qu'on n'a pas cette fibre là, ce serait dommage effectivement de ne
et c'est surtout
de se freiner.
Que c'est surtout que c'est un art contemporain qu'on comprend parce que l'art contemporain a besoin d'être signifié, d'être verbalisé pour être compris.
Oui, là il est immédiatement fédérateur et lisible.
Donc c'est un art contemporain qui est un art classique en fait.
Oui,
en
c'est surtout.
Sorte.
Oui, oui.
Et
c'est pour ça qu'il est autour de cette table.
C'est
sinon,
on
n'aurait pas
ça
été motivé.
Autour de cette table. Donc, je crois que vous y avez un blanc. Il y a un blanc.
Exactement. Après le rouge.
Après le rouge. Donc, votre univers autour des. Effectivement, vous partez de votre client, c'est ça? On va dire les choses clairement.
Oui.
C'est ce qui a inspiré en fait de votre période commerce. C'est qu'effectivement, vous êtes un artiste, mais pas un artiste maudit.
Un artiste à l'écoute.
Qui va faire des œuvres uniquement pour lui, mais d'abord
Exactement.
Un artiste à l'écoute.
Exactement.
Un artisan du sur-mesure.
Exactement.
Donc, voilà, encore des points de vue. On n'en sort pas.
Mais c'est ça, être au service de son interlocuteur.
Quels sont vos projets? Donc, il y a Hors les murs. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui
La visibilité.
La visibilité.
Parce
donc
que je suis
déjà
vraiment un artisan dans le sens artisan. J'aime bien être à l'atelier et peindre.
Oui.
Quand il s'agit de taper aux portes, c'est une autre.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile.
Donc l'idée, là, c'est d'arriver à l'UTES et de trouver des opportunités de visibilité.
Exactement.
À l'UTES.
Exactement.
Ben voilà une mission très claire.
Donc vous cherchez un galeriste
Je cherche un lieu, idéalement, oui, Paris, pour commencer.
Oui.
Je suis à Amiens, à une heure de Paris.
Oui, tout à fait. Oui.
Avec ce que je fais, je pense que j'ai ma place pour être vu sur Paris.
Mmh.
Ça, c'est certain.
Et je voudrais commencer par là, d'abord.
D'accord.
Donc, des idées d'exposition, des idées de journalistes aussi, des idées de visibilité, tout simplement.
Exactement, oui.
D'accord.
D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu en primeur ce sur quoi vous travaillez, là, actuellement qui n'est pas encore sorti, quel univers.
Derrière vous, vous avez l'ex, mes derniers travaux
vous
sur
êtes toujours dessus, oui.
Ouais, sur les plaques de rue.
Sur les murs.
Je suis sur une série hors les murs, art de rue.
D'accord. Donc
peut-être prévoir un petit quelque chose pour Radio Courtoisie.
Oui, tout à fait, oui.
oui, plaisir.
Donc,
mais je voulais pas couper notre patron d'émission qui a eu la délicatesse de placer le mot primeur histoire de garder la sémantique de notre émission.
Oui, tout à fait. En première, la primeur, voilà. Donc, actualité hors les murs, effectivement, c'est votre
voilà.
Point.
Et les bouchons aussi.
Et les bouchons. Vous faites des vases aussi, je crois.
Oui,
aussi.
En fait, je me suis dit que maintenant, avec une forme cylindrique, avec le dessin d'un bouchon, tout ce qui est cylindrique peut devenir un bouchon. Et du coup, je suis parti sur des vases, en prenant des vases en verre, de la bonne taille, à peu près comme ça. Je les recouvre d'une feuille de vrai liège, justement. Et
d'accord.
Après, je redessine dessus. Du coup, on a un vase en liège.
D'accord.
Donc, c'est pas toujours une demande des clients, c'est une création à robinet ouvert.
C'est la déclinaison qui s'agrandit.
Hors les murs, c'était pas une commande.
Non, les murs, c'était vraiment, voilà, ça vient de cette histoire de murs trouvés dans la rue. C'est venu de là, en fait.
Voilà.
De travailler le polystyrène. Donc, c'était déjà, il y a quasiment 10 ans, c'était déjà dans les dossiers. Et là, je me suis dit, je vais lancer, comment je commence? J'ai fait une série sur les grands maîtres. Et de là, c'est des plaques de rue. Après, ça peut être autre chose. Hein.
Et la question qui était posée tout à l'heure, un projet un peu phare ou une œuvre monumentale, en fait, pour vous, ça ne pose aucun problème, puisque le principe du trompe-l'œil, c'est que vous soyez à l'échelle quasiment 1, ou 1,5 fois 10.
J'ai une ambition, c'est sur les bouchons, c'est de faire ma fameuse sculpture de mon tableau. Donc, normalement, on a 15-20 bouchons de cette taille pour faire une sculpture.
D'accord.
J'ai déjà réalisé une petite sculpture qui est au musée du vin de Bordeaux avec 8 bouchons de cette taille-là.
De la petite taille, donc la taille de combien de
il fait 30 centimètres.
30 centimètres.
Et après, j'ai des ambitions. J'aimerais bien, par exemple, même sur les ronds-points de Saint-Émilion, faire des sculptures avec...
monumentales, avec des
voilà,
bouchons.
Avec voilà, enfin...
Vous faites des assemblages, c'est ça, aussi?
Une compilation de bouchons dans les ronds-points, ce serait le summum du...
D'accord.
Voilà, un autre objectif qui est de sortir de l'UTES et de partager cette information également en région pour que les assemblages artistiques trouvent leur place à Saint-Émilion.
Ça pourrait prendre effectivement un assemblage, étant donné qu'il y a des assemblages de vin, de champagne. Effectivement, on est tout à fait dans ce genre de questions. Donc voilà, je vais rappeler nos invités. Donc vous êtes sur le Libre Journal des Artisans qui va bientôt prendre fin pour sa première partie. Sera suivi par Alexandre Paolo sans doute. Donc on a accueilli Vladimir Kaufmann Turkestanski, excusez-moi, de la revue Vinicole Internationale et des Champagnes Rivaux de la Raffinière. Et on a eu le plaisir et l'honneur aussi, l'honneur partagé avec les deux invités, d'avoir Anthony Huyn pour son univers autour du vin et son approche artistique contemporaine qui plaît à nos auditeurs. Donc Anthony, qu'on peut retrouver sur son Instagram, que je n'ai pas noté. Donc,
AH artiste, sans E.
AH artiste. Oui. Sans eux.
AH artiste sans eux, mais le lien sera sous l'émission.
Voilà, le lien sera sur l'émission, de même que pour la RVI.com, si je ne me trompe pas.
Absolument.
RVI.com pour la revue Vinicole Internationale. Donc, cette émission a été enregistrée le vendredi, on est combien? On est 3 juillet
3 juillet,
jeudi,
Benoît.
3 juillet, donc... pour diffusion le vendredi 25 juillet.
De la même année.
De la même année. Donc, on a été très heureux d'accueillir tous ces invités avec plein de choses à dire. Et puis, une nouvelle approche à la fois du point de vue de la plume et aussi du point de vue de la matière. Je vous remercie. À bientôt. Et pour nos auditeurs, à dans 4 semaines. Au revoir.